Et salut Nico.
Et salut Quentin. Et bonjour à vous.
Bienvenue.
Bienvenue, curieux et curieuses qui parcouraient les ondes pour vous informer de ce qui se passe dans nos vallées sévenoles et contrées ardéchoises. Bien le bonjour. Ce lundi, c'est Quentin à la technique qui remplace Sylvain qui est parti en vacances.
Ah ouais, et ce Sylvain, c'est rare, mais quand il prend des vacances, j'espère qu'il en profite.
C'est clair, on lui fait une grosse bise. Nous recevrons donc aujourd'hui André Manali de l'Écho des Cévennes, mais avant, bien sûr, l'agenda. Alors, ce lundi 22 et mardi 23 avril, dans le cadre du projet alimentaire interterritorial de l'Ardèche méridionale, sont proposées deux journées de formation pour continuer à accompagner la mise en place d'une assiette durable en cuisine collective et commerciale. Il y a une première journée de formation, donc ce lundi, qui est une journée de formation et d'échange sur la qualité alimentaire en cuisine collective et la mise en conformité avec les lois EGalim, anti-gaspillage et la loi climat et résilience. Donc ça, c'est ce lundi. Demain, la journée sera axée plus sur la lutte contre le gaspillage en cuisine collective. Ceci est organisé par le centre de formation Le Mat 07 en lien avec le collectif Pétale 07, le mouvement des cuisines nourricières et l'assiette et le territoire. Ça se passe à la cuisine de l'école de Lagorce, donc ce lundi et demain, mardi 23 avril. L'accueil se fait à 8h45 pour des journées de 9h à 12h. Et vous pouvez contacter Yann Sourbier du MAT pour plus d'informations et éventuellement y participer. C'est le 09 79 70 67 76. Et je vous rappelle que ces journées de formation et d'échange ont quand même déjà lieu depuis 2 ans. Vous pourrez aussi, demain, mardi 23 avril, il y a un rendez-vous cinéma, jazz et manga au cinéma Le Regain au Teil. Il vous sera proposé à 17h15 la projection de They Shoot the Plano Player de Fernando Trueba et Javier Mariscal, qui sera accompagné en avant-séance d'un court-métrage Make It Soul de Jean-Charles Mboti Malolo. Cette séance cinéma et jazz sera présentée par Anaïs Hernandez, médiatrice autour de la thématique du documentaire animé. À 20h30, toujours au cinéma Le Regain au Teil, vous aurez la projection de The Blue Giants de Yuzuru Tashikawa, adapté du manga éponyme, merci. Également accompagné en avant-séance par Anaïs Hernandez autour de la thématique cinéma et manga. Ce sera une soirée organisée donc en partenariat avec le festival Fureur d'Avril. On reste dans la communauté de communes Draga, qui a rejoint les nombreux labellisés Terre de Jeux Paris 2024 avec les communes de Bourg-Saint-Andéol, Saint-Montant et Viviers. Le but est de promouvoir le sport et la découverte des pratiques sportives. Et du coup, il y a des villages Terre de Jeux qui se tiendront. Pour ce mercredi 24 avril, ça se tiendra au Gras de 10h à 17h. Il y aura un parcours Ninja Warrior, des jeux sportifs, de la buvette et de la restauration. Jeudi 25 avril, c'est à Viviers de 10h à 17h avec des activités intergénérationnelles enfants et adultes. Le matin, atelier équilibre, motricité, vélo, trottinette, draisienne, athlétisme, slackline, gymnastique, acro, yoga, parents-enfants. Aussi du bien-être avec de la marche nordique, de la gymnastique adulte, de la marche consciente et encore de l'acro-yoga. Et vous aurez aussi l'après-midi de 13h30 à 15h15, encore un parcours Ninja Warrior pour les enfants. Et à 15h30 à 16h30, une activité intergénérationnelle où vous pourrez faire du disque de golf, du molki, de la sarbacane, du palais vendéen, du tir à la corde, de la détanque, c'est de la pétanque avec les dés, du pool ball, du kin ball, etc. Et en cas d'intempérie, il y a une solution. Et pour finir, ce sera donc le 26 avril de 10h à 17h, toujours les villages Terre de Jeux à Saint-Marcel d'Ardèche pour des animations sport collectif innovant au complexe sportif et c'est dès 3 ans. Ce mercredi à la bibliothèque, à la médiathèque de Montpezat, vous aurez un atelier manga qui est prévu. C'est la création manga en 4 cases avec storyboard, croquis, ancrage, etc. Le tout animé par Shinkami Shu, qui est mangaka et illustrateur. Ce sera l'atelier proposé au choix à la médiathèque à 10h ou 14h. Par contre, l'inscription est indispensable au 04 75 87 29 41. Vous avez aussi proposé ce jeudi 25 avril à 18h30 une séance spéciale, une séance escale patrimoine au navire à Omedin. C'est un sixième rendez-vous de la rétrospective Warner. C'est une séance précédée d'une introduction au film dans son contexte, son histoire et son réalisateur, suivi d'un bref échange libre dans la salle. Et ce jeudi, vous pourrez voir Excalibur de John Boorman, 1981. Le synopsis, c'est Uther Pendragon qui reçoit de Merlin l'Enchanteur l'épée mythique Excalibur. À la mort d'Uther, l'épée reste figée dans une stèle de granit. Seul le jeune Arthur, fils illégitime d'Uther, parvient à brandir l'épée Excalibur et devient par ce geste le roi d'Angleterre.
Tu nous as pas raconté la fin, là ?
Non, je m'arrête là. Bref, John Boorman rêvait d'adapter Le Seigneur des Anneaux. À la place, il a tourné ce magnifique film qui est une légende du Graal, qui était censé réunifier le royaume d'Arthur. Une réussite d'une grande beauté visuelle, à la fois un film d'épée et d'auteur. Donc c'est ce 25 avril au cinéma Le Navire.
Qu'est-ce que tu proposes ? T'as encore des petites informations pour nous ?
On peut en avoir une petite encore, si
allez,
vous voulez.
Vas-y.
Allez, jeudi 25 avril aussi, à 18h au local de l'association Paillolive, 34 rue du Chassezac à Maisonneuve, vous avez la rencontre naturaliste mensuelle et comme d'habitude, échange de données, de photos, d'observations, mais aussi des nouvelles du castor avec les stagiaires de Fibernature.
Super programme tout ça. On a de quoi s'occuper toute la semaine sans affronter trop le Mistral.
Exactement. Et bah pour affronter le Mistral, le mieux c'est de le faire en musique.
Ouais, et puis moi je vous propose un son que vous avez encore sûrement jamais entendu puisqu'il est sorti le 19 avril, donc vendredi. C'est une super track, c'est plein de soleil, c'est plein de bonnes énergies. C'est Waban avec What the Hell, c'est son premier single. Tendez l'oreille, ça claque.
My plan's getting blurry. Just relax, take it easy. You can think I'm a fool, but I look pretty cool. I'm free, got no blues. Bring your friend, I'm on the move. Dark in the shadow, it's better climb. Get out the beaten track, make you smarter. Meet my lovely friends, we are not ashamed. On the back of the forest, we're not gonna fall. I'm like a bird in the sky. I'm gonna fly. Changing of you.
C'était Waban, Waban sur Fréquence 7, Alizé, Waban, chanteuse du monde, saltimbanque, vagabonde, un rayon de soleil qui nous offre cette première pépite. Gardez l'oreille tendue les jours et semaines qui viennent sur Fréquence 7 parce qu'elle nous réserve pas mal d'autres surprises. Pour le moment, c'est l'heure de revenir en studio, retrouver Nico et son invité régulier, Monsieur André Manali de l'Écho des Cévennes.
Et oui, nous y sommes. Bonjour André.
Bonjour Nicolas.
Alors André Manali de l'Écho des Cévennes, ce journal trimestriel qui a sorti un nouveau numéro, donc le numéro 157 le 23 mars, comme à chaque nouvelle saison depuis 40 ans.
40 ans cette année, oui, ça n'est pas rien.
C'est pas rien. Alors l'Écho des Cévennes, qui êtes-vous ?
Alors l'Écho des Cévennes est né donc en 1984 à peu près, à la suite du contrat de pays. Le contrat de pays était un contrat, comme son nom l'indique, mis en place pour développer les vallées, Baume-Droby, etc. Surtout vers Baume-Droby d'ailleurs, mais pas seulement. Et à l'issue de ce contrat, qui était limité dans le temps, il restait de l'argent. Et certains qui étaient élus, même à l'époque, élus un peu progressistes, ont dit on devrait faire quelque chose pour l'information. Et donc, ainsi, l'Écho des Cévennes est né, comme journal d'information locale.
Journal pérennisé un peu de l'information locale.
Et il a marché au-delà de toute espérance.
Et vous y êtes encore.
Et pour l'instant, même si ça craint un peu au niveau des finances maintenant.
Quelle est votre situation, financière actuelle ?
D'abord, il faut dire que la presse, en général, a des difficultés. En plus, beaucoup de choses ont augmenté, le papier a flambé, si j'ose dire. Les timbres, les enveloppes, tout ça est extrêmement cher. Et même les numéros qui se vendent, avec ça, on a du mal à couvrir les frais. Alors on résiste parce qu'on est tous bénévoles, donc on n'a pas de frais de personnel. Et pour l'instant, on s'en sort, mais c'est limite. Alors on vous encourage à nous soutenir, à acheter l'Écho des Cévennes.
Il faut avouer que c'est quand même un journal satirique, mais c'est quand même du journalisme de qualité. C'est-à-dire que vous êtes les seuls, l'Écho des Cévennes, à pointer du doigt ce qui se passe dans les villages et dans les com-com du Sud-Ardèche. C'est un organe de presse à part entière, c'est précieux, mais le grand journalisme, ça n'a pas vraiment le vent en poupe. Hein. On est plutôt à l'heure de CNews, Cyril Hanouna, BFM.
Malheureusement, oui. Eh bien non, il y en a encore qui résistent dans les Cévennes. Et du coup, des bénévoles, combien vous êtes de bénévoles pour faire tourner le journal ?
C'est variable hein, selon les époques. En ce moment, on n'est pas très nombreux. Alors le gros problème, c'est qu'on aimerait bien trouver des jeunes. Ouais. Et les jeunes, ils n'ont pas moins de temps, ils travaillent, etc.
Mais où sont-ils ?
Voilà, et les vieux, on a le temps. Mais donc, on appelle au peuple s'il y a des jeunes qui veulent rejoindre l'équipe, ils sont les bienvenus.
Génial. Et parmi les bénévoles, du coup, comment vous partagez le travail ?
Alors, selon les implantations géographiques, d'abord, ça paraît évident. Quelqu'un qui est du côté des Vences, etc., va parler de ce secteur. D'autres qui sont en Baume-Droby vont parler plutôt de Baume-Droby. Et aussi, selon les affinités des gens, par exemple, il y a des gens qui sont beaucoup plus branchés sur l'écologie, les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, etc. D'autres qui ont éventuellement eu une petite expérience d'élu peuvent parler beaucoup plus facilement de l'administratif, des élections, des rouages. Et ça, c'est précieux. C'est pas à la portée de tout le monde de parler des PLU, des choses comme ça, des lois. Du coup, ça nous amène à avoir une fonction un petit peu pédagogique sur la vie civique.
Ouais, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses tant qu'on n'y a pas été sur un conseil municipal ou sur des choses un peu plus...
C'est ça.
On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Ouais. Très bien. Et du coup, vous venez de sortir là le numéro 157. Combien vous faites de tirages avant qu'on aille se plonger dans le sommaire du 157 qui est publié, qui a été sorti là au mois de mars? Combien vous faites de tirages à peu près
On tire à peu près à 550 exemplaires.
550 exemplaires.
Alors on a des, à peu près, à peu près 80 abonnés. Et sinon, nous sommes en vente dans les magasins de la presse et éventuellement d'autres points un peu plus spécifiques.
Où c'est qu'on peut vous retrouver du coup sur le territoire?
Alors on a beaucoup de points de vente. Hein. Alors parce que nous sommes à Aubenas, nous avons la librairie Tiers-Temps.
Ouais.
On en vend un petit peu. À Laurac, à Joyeuse, à Rosières, au Vence, magasin de la presse, librairie et la Belle Oursette. On en vend un peu à Rocle, on en vend un peu à Valgorge, on en vend à Saint-Paul-le-Jeune,
excellent,
à Ruons, un peu à Gros-Pierre, là c'est son service, et j'en oublie peut-être...
D'accord, bah c'est déjà un chouette réseau de distribution. Oui. Et si jamais il y a des gens qui sont intéressés par acheter éventuellement votre l'écho via Internet, est-ce que c'est une chose qui est possible? On peut en commander quelque part ou...
On peut commander par notre adresse mail.
Par votre adresse mail?
Oui.
D'accord, donc l'écho des Cévennes, on tombe sur votre site, on peut faire une commande tranquillement.
Oui.
Moi, je veux rappeler que si vous cherchez l'écho des Cévennes Ardèche, il y a une autre publication qui est plus dans le sud des Cévennes,
qui est
un journal de petites annonces.
Exact.
Et donc,
c'est vrai, c'est pas la même. Ouais.
Si vous avez Facebook ou si vous cherchez sur Internet, il faut préciser, c'est l'Écho des Cévennes 07. La page Facebook de l'Écho des Cévennes, c'est l'Écho des Cévennes 07. Et elle est mise à jour régulièrement avec des petits extraits, des dessins de presse qui sont parus dans le numéro précédent. Moi, je vous invite très fort à aller y faire un tour, à la fois parce que vous tenez au jus de l'actualité du coin et en même temps parce que c'est une bonne occasion de peut-être rentrer dans ce réseau merveilleux.
Et que cela ne vous empêche pas d'acheter le journal.
Tout à fait.
Ou sinon, pour l'adresse, bah, vous tapez l'excellent sous-titre de l'Écho des Cévennes qui est « Le pelou dans le caleçon du notable ». Les Ardéchois comprendront. Alors, au sommaire de ce numéro 157... Ça parle de beaucoup de choses. On va effleurer certains sujets, du coup, avec André Manali que l'on reçoit. Entre autres, là, tiens, ça commence par les humeurs. Chasse des cartouches chez les buralistes. Et oui, c'est les nouvelles recommandations, on va dire.
Alors là, c'est une plaisanterie qui nous a même attiré un peu d'ennui.
Ah.
Parce que tous les humoristes vous le diront, beaucoup de gens ont du mal avec le second degré. Et alors l'affaire a été trouvée dans le journal Le Monde. On a appris que les cartouches pour la chasse ont été autorisées à la vente chez les buralistes dans les Pyrénées-Orientales.
C'est étonnant.
D'abord dans les Pyrénées-Orientales à titre expérimental et éventuellement en vue peut-être d'élargir ça au tout le territoire national. Alors du coup, on a fait un article un peu... plein d'humour là-dessus, en jouant sur l'homonymie cartouche de cigarette et cartouche pour la chasse.
Okay, ouais.
Que le buraliste de la Blachère nous excuse, il a peut-être senti un peu visé, bien qu'on se moquait surtout des chasseurs, hein, pas de lui, bien entendu. Nous allons d'ailleurs nous excuser dans le prochain numéro. Mais il n'a pas tout à fait bien pris. Et il a cru que c'était qu'on inventait. Mais en fait, l'histoire est vraie. Il y avait, dans les Pyrénées-Orientales, il y a bien des cartouches en vente. D'où la tentation de faire vraiment de l'humour là-dessus. Et en localisant l'humour, quoi, en situant l'affaire à la Blachère. Voilà.
D'accord. Du coup, ça a explosé.
Oui, parfois comme ça, on a des quiproquos, disons.
Mais c'est vrai que ça peut, on peut se poser des questions, oui, sur cette nouvelle mesure. Parmi les choses aussi, des humeurs, tiens, le cormoran, est-il de bonne humeur, lui?
Alors, c'est encore une petite brève, qui est juste amusante. Je crois que c'est Fabrice Brun, le député, là, qui s'est dit que les cormorans pullulaient, il fallait flinguer les cormorans, absolument. Ah. Alors on a un peu ironisé sur ses propos.
D'accord. Et on n'en finit pas de tirer sur toutes les bestioles sauvages.
Tout ce qui bouge.
Ouais, c'est impressionnant. Au final, un cormoran rôti, moi j'ai aucune idée de ce que ça donne. Un magret de cormoran.
Un magret de cormoran. Peut-être même peut-être une couette en duvet de cormoran. Enfin bref. Sinon, parmi les choses un peu moins réjouissantes, Il y a un drôle de carnaval qui se trame sur les gras.
Oui, alors ça, c'est les gras. Bon, en particulier, l'article que nous avons fait concerne surtout la commune de Saint-Alban, la zone dite de Bourbouillet, entre Saint-Alban et la Blachère.
Il y a une résurgence, je crois.
Oui, il y a une résurgence là.
En plus d'être un milieu naturel
exceptionnel. C'est une zone Natura 2000.
C'est ça.
Il s'est déjà déroulé un rallye abominable. Donc, c'est devenu un terrain de jeu, les zones Natura 2000. Bon, ce genre de projet photovoltaïque se multiplie en Ardèche. Et sur des zones... Alors, c'est très bien qu'on fasse de l'énergie renouvelable, bien entendu.
Ça dépend où, quand et comment aussi.
Voilà, oui, c'est comme pour les éoliennes, avec qui, pourquoi, etc. Et là, les projets sur des zones sensibles pullulent, je n'exagère pas.
On parle des zones naturelles sensibles.
Oui, 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 donc ça devient, et ça commence à devenir problématique si pour soi-disant défendre la Terre, on commence à menacer la biodiversité, c'est un peu gênant.
Alors, on rappelle que sur ces territoires des gras qui peuvent paraître comme des territoires inoccupés, où il n'y a pas d'activité, on a quand même, malgré des premiers défrichements qui historiquement datent de 5000 ans avant notre ère, on a quand même toute une flore et une faune très particulière méditerranéenne qui s'est mise en place et qui est très riche de biodiversité. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais du photovoltaïque, a priori pour faire de l'énergie dite verte, et encore on pourra en parler, question d'échelle et de moyens utilisés, tout ça sur des terres qui sont déjà classées naturellement sensibles, voire même qui ont déjà des options qui sont posées dessus en termes de protection de la nature, de ne pas y faire n'importe quoi en termes d'activité humaine, d'aller, on va pas raser tout ça, on va juste... entre guillemets, mettre toute une batterie de panneaux photovoltaïques qui sont au plus haut, au plus bas, à 1 mètre du sol, jusqu'à 1 mètre 50, voire 2 mètres, et qui couvrent absolument tout l'espace. Autant vous dire que tout ce qui vit là-dessus, en surface et dans le sous-sol, n'a plus accès à de l'eau, n'a plus accès à la lumière, et que là, en fait, très clairement, on couvre, on défonce complètement le milieu naturel.
Et on clôture. Et on clôture, donc, les couloirs de pas de migration, c'est un bien grand mot, mais de déplacement des animaux sont extrêmement contrariés. Quoi. L'aigle de Bonelli, dont c'est la zone de chasse, ne sera-t-il pas perturbé par ces 30 hectares de panneaux
Entre autres, sachant qu'en plus, il y a plein de projets qui sont en train de pousser comme ça tranquillement un peu ailleurs en Sud-Ardèche. Alors l'aigle de Bonelli, mais aussi en fait tous les autres, quoi. Le Milan Royal qui est dans le secteur, etc., qui sont tous des bons indicateurs de la biodiversité qui est encore en place en Sud-Ardèche, qui, je le rappelle, on est sur un territoire ici où si vous prenez Aubenas, faites un rayon de 50 km autour, on retrouve là-dedans, c'est impressionnant, mais on retrouve 80% de la biodiversité de la France métropolitaine. On est sur des territoires qui sont absolument uniques et complètement à préserver, quoi.
Ouais, moi j'en profite pour tirer un parallèle avec le même projet qui a démarré il y a un peu plus d'un an sur la montagne de Lure au-dessus de Fort Calquier, donc c'est les terres de Giono, c'est, vous savez, ces grands plateaux battus par les vents. En fait, aux yeux des promoteurs et du gouvernement, visiblement, c'est des zones de land et qui n'ont aucune valeur ni écologique ni patrimoniale. Alors que la montagne de Lure, ça a beau ressembler à un gros caillou, c'est du thym, du romarin, des espèces de pins, voilà, toute une faune et toute une flore qu'on laisse de côté. Et il y a une résistance qui s'est organisée là-bas, des collectifs d'habitants qui montent toutes les semaines pour interrompre le chantier. Ça a donné lieu à des échauffourées entre la boîte de sécurité chargée de surveiller le chantier, les gendarmes, gendarmes, les ouvriers et les militantes et militants qui tentent de protéger pas seulement un panorama et un confort visuel, mais aussi une biodiversité. Et c'est un combat qui est très 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 prégnant dans le 04, donc dans les Alpes de Haute-Provence. Moi, je vous invite à vous renseigner. C'est donc les Amis de la Lure, il me semble, l'asso qui fédère tout ça. Ils sont virulents, ils sont complètement pacifistes et ils font face à, comme d'habitude, hein, le rouleau compresseur d'une industrie qui se prétend verte. La concession là-bas, par exemple, elle est accordée à une multinationale canadienne, Boralex. Et je ne sais pas non plus qui est censé exploiter ça dans les gras en Ardèche. Mais merci l'Écho des Cévennes de mettre ça en lumière parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a vraiment besoin d'une mobilisation citoyenne.
Alors qu'on soit d'accord, c'est pas contre le panneau photovoltaïque ou les énergies vertes, mais une fois encore, c'est contre la façon dont c'est implanté, où c'est qu'on l'implante, et Quentin vient de soulever aussi un autre point,
avec qui
et par qui c'est géré. Parce que nous faire croire que installer ces grandes usines photovoltaïques, ou comme on a eu avec les grandes éoliennes énormes, qui sont gérées par des compagnies et tout un réseau qu'il y a derrière, ça ne profite quasiment en rien presque aux acteurs locaux et au patrimoine local, aux collectivités locales en fait. C'est encore toute une fuite en avant et de l'énergie et des profits. Et on regarde, on continue à regarder ces espaces de... ces espaces sauvages où il y a encore de la biodiversité, de la vraie vie, et en les regardant qu'avec l'objectif du profit financier, forcément, ça n'amène pas grand-chose de bon.
Ouais, ça reste une logique extractiviste, même si ce n'est pas du pétrole.
Malheureusement.
Alors, à ce sujet, je voudrais rajouter qu'il n'y a pas que le problème de la biodiversité. Les bergers et les bergères, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le coin qui ont des moutons, les gens craignent que les locations, les baux sur les terres, qui jusque-là ne valaient pas grand-chose, vu que ce sont des terres pas fertiles, n'étaient pas chères, et là, les propriétaires de terrain sont incités à louer à prix d'or pour des projets comme ça, au détriment... de l'élevage.
Au détriment de l'élevage.
Voilà.
Au détriment de l'élevage qui est déjà pas si simple en Sud-Ardèche.
Non.
Bref, une affaire à suivre, un drôle de carnaval. D'autres choses dans cet excellent numéro de l'Écho des Cévennes, numéro 157, donc paru au mois de mars 2024. On a, un petit point sur Saint-Pierre-de-Colombier.
Alors, Saint-Pierre-de-Colombier...
Où en est-on?
Alors, Saint-Pierre-de-Colombier, ça n'est pas vraiment notre zone Sud-Ardèche, mais nous avons fait un article un peu exotique en se déplaçant au nord de Benoît. On a envoyé des envoyés spéciaux là-bas. C'est triste, mais c'est folklore à la fois, parce que, ça a beaucoup été médiatisé, mais pour ceux qui ne le savent pas, il y a un groupe religieux qu'on peut qualifier d'intégriste qui est implanté là-bas et qui ont décidé de construire une cathédrale, rien que ça, sur je ne sais pas combien d'hectares, etc. J'ai pas les chiffres sous les yeux là.
C'est un dossier qu'on suit quand même.
C'est un dossier qu'on suit depuis longtemps et là donc les gens se sont mobilisés contre et c'est dangereux d'un point de vue aussi écologique et pire, les religieux intégristes rachètent les maisons, les terres, etc. Et on arrive évidemment dans une petite commune comme ça, à modifier la structure électorale à leur profit. Et le vote est maintenant d'extrême droite et plutôt même Zemmour que Marine Le Pen. On en est là. Alors, c'est une bagarre constante à chaque fois avec la préfecture, avec etc. Et donc tantôt un préfet autorise les travaux, puis il y a des manifestations, les gens vont en justice, tac. Et aux dernières nouvelles que vous lirez dans le prochain numéro d'ailleurs, on vient d'apprendre qu'enfin les Amis de la Bourge, qui sont le collectif qui défend le site, ils ont obtenu quand même, la préfète est venue avec les gens de la drill La DREAL, c'est la direction régionale de...
DREAL.
La DREAL, oui, oui. Ils sont venus sur le coin et normalement, ils se sont quand même rendus compte que sur une zone aussi protégée, hein, il faut une étude d'impact écologique dite 4 saisons, c'est-à-dire qui dure un an. Parce que c'est important, il faut voir comment les plantes, etc., se développent en chaque saison. Donc la préfète s'est rendue compte de ça et a arrêté les travaux des religieux. Alors ils sont furieux, évidemment, ils crient encore au terrorisme écologique, etc. Ouais. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc pendant un an, les travaux sont arrêtés après des manifestations, etc., des appels, des re-appels. Chantier. Enfin bref, c'est un vrai feuilleton. Voilà.
C'est bien que si on a tenu ce un an-là pour l'étude écologique...
Mais j'anticipe parce que cette décision de la préfète d'arrêter les travaux est extrêmement récente. Donc ce sera dans le numéro futur.
Ouais,
mais dans le numéro qui est en vente actuellement, on parle de la problématique pour que les gens sachent ce qui se passe là-bas. Voilà.
Ouais, c'est un sacré feuilleton où on observe régulièrement la mauvaise foi de la famille missionnaire qui porte son projet tous azimuts. Ils ont profité du changement de préfet, le départ de Thierry de Vimeux et l'arrivée de, je ne sais plus comment elle s'appelle, Sophie Elyséon. Qui débarque, qui n'est pas tout de suite au courant de tous les dossiers et en fait autorise la reprise des travaux. Et quand elle a plongé un peu plus son nez dedans, j'imagine qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait... Enfin, on sait quand on étudie le dossier de près qu'il y a pas mal d'éléments fallacieux et ça mérite une vraie réflexion. Et le dossier est resuspendu pour un an. On espère qu'ils seront en mesure de produire une étude environnementale fiable. Mais bon, on n'en est pas là. Il y a d'autres éléments dans l'enquête qu'on retrouve dans l'Écho des Cévennes, ce numéro, parce qu'en fait, il y a le père Bernard a des soucis aussi. Lui aussi, il a des casseroles au cul. En fait.
Oui.
Oui, donc tout ça à lire dans le numéro 157 encore. En tout cas, bravo aux amis de la Bourge qui, sur ce coup-là, se sont bien, bien mobilisés. Numéro 157, du coup, de l'Écho des Cévennes. On voit aussi sur le titre « Déserts médicaux, la chasse aux médecins bat son plein ». Où en est-on sur la question en Sud-Ardèche?
Alors, effectivement, le Sud-Ardèche est considéré comme un désert médical. Et alors, il y a des choses intéressantes et des choses un peu plus graves dans cet article. Ce qui était triste, à la fois triste et amusant, c'est qu'il y avait un médecin à la maison médicale de Bomdrobi qui est parti à la Ville-Dieu. Alors, à la Ville-Dieu, ils étaient ravis de recevoir un médecin. Mais c'était déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et en plus, ce médecin, son activité principale, c'est de faire des épilations. Comme notre ancien... Alors, on a appris après l'apparition de notre journal que notre ancien ministre de la Santé fait pareil.
D'accord.
Il n'y a que ça qui paye.
C'est le règne de la chirurgie esthétique, c'est le règne du marketing, du packaging.
C'est la nouvelle médecine. Oui, on retrouve beaucoup de choses donc, dans ce sommaire numéro 157. Entre autres aussi, un petit... Tiens, Saint-Alban d'Auriol, dormez tranquille, braves gens. Que se passe-t-il donc?
Alors, nous revenons à Saint-Alban parce que nous étions il y a 5 minutes pour parler du parc photovoltaïque. Et là, le maire, qui est pourtant un scientifique, un type qui est intelligent, il a décidé avec la municipalité... avec l'aval du conseil municipal, de mettre, je ne sais plus, une bonne dizaine, je n'ai pas le numéro, l'Écho des Cévennes sous le nez, là, et une dizaine de caméras une commune d'une centaine d'habitants, c'est-à-dire à peu près, il y a une caméra pour enfin, je ne sais plus, il y a plus de caméras qu'à Nice.
D'accord, c'est des caméras de vidéosurveillance.
Voilà, et bizarrement, on n'en a pas, ils n'en mettent pas devant la poste, qui pourtant a déjà été braquée, ils n'en mettent pas au jardin d'enfants, donc ils n'ont pas peur des pédophiles.
Ça doit être pour une nouvelle télé-réalité sur Saint-Alban d'Auriol, ouais. Allez savoir.
Notez qu'il y a eu un glissement sémantique l'année dernière, on est passé des caméras de vidéosurveillance à des caméras de vidéoprotection.
Ouais.
Dormez tranquille.
Dormez tranquille. Dormez tranquille, mais réveillez-vous donc. Consultez l'écho des Cévennes, donc le numéro 157. Trimestriel est sorti et c'est le pelouse dans le pelouse dans le caleçon du notable.
Merci André Manali.
Merci beaucoup d'être venu nous exposer un peu sur ce qui se passe dans ce bel écho et très content de pouvoir y faire écho. On retrouve la Minute Association et ce sera... Quentin, trop rapide. Et cette semaine, donc, c'est avec Christine Ayoul de la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur qui nous fait un petit point sur les droits d'auteur.
La Minute Asso.
Et aujourd'hui, dans la chronique hebdomadaire La Minute Associative, consacrée chaque lundi à l'actualité de l'accompagnement associatif, formation, agenda, conseils, etc., prodiguée par les têtes des réseaux associatifs en Ardèche, c'est Christine Ayoul, chargée de développement culturel à la FNCTA, la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur, qui fait un point sur les droits d'auteur. Bonjour Christina.
Bonjour.
Alors d'abord, la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre Amateur, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une fédération nationale, comme c'est dit dans le nom. Donc, en fait, on est là pour accompagner les troupes amateurs sur le territoire. Alors, moi, je suis du comité Ardèche, donc j'aide les troupes amateurs ardéchoises à développer leur activité sur le territoire. Voilà, j'organise des formations, des stages, des rencontres, voilà, pour développer le théâtre amateur.
Vous êtes basé où ?
À Aubenas, mais je suis en télétravail, donc je me déplace sur l'intégralité du territoire ardéchois.
Super. Et toutes les compagnies peuvent faire appel à vos services ?
Oui,
qu'elles soient. Il n'y a pas nécessairement, il n'est pas nécessaire d'avoir un statut particulier ?
Non. Alors c'est vrai qu'après, j'amène vers l'adhésion à la fédération, forcément, mais j'accompagne toutes les troupes.
D'accord. Aujourd'hui, vous voulez nous parler des droits d'auteur. Alors d'abord, les droits d'auteur, ça vient d'où ?
Alors les droits d'auteur, c'est en fait au XVIIIe siècle que ça prend forme. C'est né sous l'impulsion de Beaumarchais, après le succès de sa pièce de théâtre « Le barbier de Séville ». Il décide de réunir autour de lui d'autres auteurs afin de faire connaître leurs droits. Et c'est ainsi que le 3 juillet 1777, il invite à sa table une trentaine d'entre eux et il propose de fonder la première société des auteurs dramatiques, alors baptisée le Bureau de législation dramatique. C'est en fait du coup la base de la fondation de la SACD, appelée aujourd'hui SACD du coup.
Bureau de législation dramatique, je pense que c'est un peu le bureau de toute législation qui est dramatique.
Mais... voilà, c'est ça.
Et ça concerne quelles œuvres ?
Alors ça concerne toutes les œuvres qui existent. Dès lors qu'elles sont originales, ce qui constitue une définition juridique de la créativité de l'auteur, différente de la nouveauté. C'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est considéré comme original et qui exprime la personnalité de son créateur.
D'accord. Comment on obtient justement les droits d'auteur sur ces œuvres originales ?
Alors, il faut en demander l'autorisation. Donc, il y a des œuvres qui sont protégées par la SACD, donc les auteurs qui déposent leurs textes à la SACD. Sinon, il y a des œuvres plus contemporaines et où il faut directement prendre contact avec la maison d'édition ou directement avec l'auteur. Et là, alors, je parle principalement des œuvres théâtrales ou des œuvres littéraires, mais on a aussi tout le côté droit d'auteur de la musique, évidemment, qui, eux, c'est la SACEM qui s'en occupe. C'est le leader mondial de la gestion des droits d'auteur. Donc, elle réunit aussi une large diversité d'auteurs, de compositeurs, d'éditeurs et de créateurs. Et donc, à chaque exploitation d'une œuvre, là, pour le coup, musicale, il faut déclarer auprès de cet organisme la musique et combien de temps, dans quel cadre, pour voilà, avoir les tarifs ensuite.
Et justement, pour avoir une idée... Est-ce que c'est cher ?
Alors ça dépend. Ça dépend de l'œuvre, ça dépend de si le créateur est connu ou pas. Pour la musique, ça dépend de la longueur. Et pour les œuvres théâtrales ou littéraires, c'est des forfaits. Donc ça dépend vraiment de l'auteur en lui-même. C'est pas pareil si on prend Michel Jean-Pierre d'Aubenas que si on prend Jon Foss qui vient d'avoir le prix Nobel de la paix, par exemple.
Et pour avoir une idée, une fourchette ?
Alors, une fois, c'est très, très, très large. Hein. Par exemple, moi, quand j'étais au Festival d'Avignon et qu'on a présenté le texte d'Howard Barker, donc un auteur anglais qui n'est pas représenté par la SACD, donc j'étais directement passée par la maison d'édition, j'avais payé, il me semble, de mémoire, alors ça a peut-être évolué depuis, 250€ pour le festival, donc il y a 21 représentations.
D'accord.
Mais ça... c'était pas dans une grosse jauge, c'était pas une grosse salle. Voilà, ça dépend de la jauge, de la recette, de tout ça, en fait.
Ok. Donc, c'est... Oui. Et est-ce que c'est facile d'obtenir ces droits d'auteur ?
Ça dépend toujours de la personne. En fait, il y a des auteurs qui refusent catégoriquement qu'on emploie leur texte. Il y a des auteurs qui sont très carrés. C'est pas forcément péjoratif quand je dis ça. Par exemple, Wajdi Mouawad refuse catégoriquement qu'on coupe dans son texte. Donc, il veut bien laisser ses droits, mais il faut qu'il soit intégralement dit comme lui l'a écrit. Après, il y a des auteurs qui sont plus souples et puis des auteurs qui ne laissent pas du tout l'exploitation des textes. Et après, c'est encore différent une fois qu'ils sont décédés. C'est les ayants droit qui prennent le dessus et du coup, c'est eux qui décident. Donc, c'est vrai que ça peut encore changer. S'il y a des différends entre les ayants droit, c'est plus pareil. Après, là... c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, au bout de 70 ans après le décès de l'auteur, ça tombe dans le domaine public. Et du coup, là, on ne parle plus de droit d'auteur.
D'accord. Mais il y a quand même quelque chose à déclarer pour les compagnies amateurs.
Quand on est en domaine public, non.
D'accord.
Du coup. Mais sinon, il faut déclarer, oui.
Il faut déclarer, j'avais lu ça, il faut déclarer tous les trimestres, non ?
Il faut, ouais, c'est un mois avant la première représentation qu'il faut demander l'autorisation. Et après, il me semble qu'il y a en fait tous les ans une réévaluation où ils peuvent complètement arrêter de donner les droits.
D'accord.
Ils peuvent décider de, voilà, ça y est, c'est tout. Parce qu'aussi, ils peuvent donner l'exclusivité à une troupe, à une compagnie. Souvent, c'est ce qui arrive, une compagnie professionnelle qui a l'exclusivité sur une pièce de théâtre. Et du coup, bah, toutes les troupes qui sont en train de jouer la pièce doivent arrêter.
Ben, merci beaucoup pour ces informations. Si les compagnies de théâtre amateur veulent plus d'infos, plus de conseils, elles vous rejoignent, ou en tout cas, elles font appel à vous, la Fédération nationale des compagnies de théâtre amateur. On vous trouve sur Internet ?
Oui,
vous avez un site ?
Sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, un peu partout. On essaye d'avoir des actions locales. On a un stage Lumière au Théâtre de Vals-les-Bains, où on peut aussi se rencontrer le 27 avril. Donc voilà.
C'est dit. Merci beaucoup Christina Yule, chargée de développement culturel de la Fédération nationale des compagnies de théâtre amateur.
Merci beaucoup.
La Minute Asso.
Yeah. Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence 7 dans l'Onde Curieuse. On remercie Sylvain pour cet excellent générique. Merci Sophie pour la Minute Associative. Et merci Quentin qui aujourd'hui réalise la technique.
Ouais, merci Nico, bravo.
Je t'en prie. Au programme de cette belle journée sur Fréquence 7, si vous n'êtes pas contraint d'affronter le blizzard, c'est plus la bise qui est chez nous là, vous retrouverez les jardins suspendus d'Olivier Horry à 13h. À 15h, vous retrouverez vos annonces billets d'humeur dans le Telex. À 17h, ce sera la rediffusion de cette onde curieuse. À 18h, vous retrouverez Solidaire d'abord, ce sera en direct. À 19h, vous retrouverez l'émission Folk, l'écho du parquet. Et à 21h, l'excellent DJ Steph pour un hexagone jazz. Bonne journée à vous et prenez soin de vous.
Salut Nico, salut tout le monde, bel après-midi sur Fréquence 7.